Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Ordinateurs, tablettes, smartphones, enceintes connectées, de nombreux outils numériques se sont immiscés depuis des décennies dans notre quotidien. S'ils nous facilitent parfois la vie, ils ont un impact souvent sous-estimé sur l'environnement. Attractifs, ils nous permettent de communiquer rapidement et d'avoir accès à de nombreux savoirs gratuitement. Leur impact est croissant car nous sommes des milliards à en vouloir. Produire tous ces objets connectés induit une consommation d'énergie, une consommation de matières premières, de la pollution et une production de déchets massive. Réparation, don, troc, achat en deuxième main, sobriété et optimisation des outils sont les maîtres mots d'une pratique numérique plus écologique. Dans son guide « La face cachée du numérique », l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, vous propose de confronter et d'analyser vos pratiques en matière de numérique afin de réduire leur impact. D'ailleurs, le collectif Translucide, basé à Nantes, rassemble des professionnels, artisans du web, indépendants avec des valeurs écologiques, qui ont développé dans leur pratique l'éco-conception. Thibaut Dugas, un des membres du collectif, nous éclaire sur les bonnes pratiques en termes d'équipement numérique. Il est notre invité dans ce 9e épisode des Écolonautes. Chiffres clés, données de cadrage, commençons avec un ping-pong avec Alexandre pour poser le décor sur le numérique. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lucie.
Une question simple pour démarrer. Quels sont les impacts du numérique sur l'environnement ?
Ils sont à la fois positifs et négatifs. Il faut donc trouver le bon équilibre. Positif, car le numérique permet par exemple de diminuer les déplacements ou de faciliter le partage d'idées ou de biens. Ce sont donc des atouts précieux pour la transition écologique. Négatif, car la dématérialisation est un mirage. On parle de dématérialisation car le numérique est vu comme un levier pour diminuer l'empreinte globale liée au papier. Or, la conception des outils numériques et leurs usages ont des impacts bien concrets. Consommation d'énergie, de matières premières, pollution, production de déchets. Aujourd'hui, on estime la contribution du numérique aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial à hauteur de 4%. La forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Ces émissions sont dues à 47% par les équipements des utilisateurs, donc toi, Lucie, moi et toutes les personnes qui nous écoutent, et à 53% par les data centers et infrastructures réseau.
Est-ce qu'on a une idée plus précise du nombre d'équipements et de leur impact ?
Tout à fait. Le bilan environnemental des objets numériques s'alourdit considérablement lors de l'extraction des matières premières et lors de leur fabrication. Il ne faut pas oublier non plus les impacts liés au transport, à la distribution, à l'utilisation et à la fin de vie. Il faut 600 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. Vous avez bien entendu, on mobilise donc en moyenne plus de 300 fois plus de matière que le poids final de l'équipement. En Europe occidentale, en 2021, on compte 8,9 équipements par personne, contre 5,3 en 2016. Et enfin, un dernier chiffre clé sur cette question, 10 milliards de téléphones portables ont été vendus dans le monde depuis 2007. Et pour faire tourner tout ça au niveau mondial, le fonctionnement du numérique repose sur 67 millions de serveurs, 1,1 milliard d'équipements réseau type routeur ou box et 19 milliards d'objets connectés qu'on prévoit à 48 milliards pour l'année 2025.
Effectivement, le numérique n'a rien d'immatériel, sans parler des usages, puisque tout cela consomme de l'énergie. Alexandre, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner pour nous éclairer sur la question ?
En une heure, le nombre de mails échangés s'élève dans le monde à 8 à 10 milliards, sans compter les spams. Il y a également, pendant ce même laps de temps, 180 millions de recherches effectuées via Google. Les données numériques sont de grandes voyageuses. Un mail, un téléchargement, une vidéo, une requête sur un moteur de recherche effectuent en moyenne 15 000 km via les infrastructures réseau. Les technologies numériques constituent aussi le premier poste de consommation électrique au bureau et le second poste à la maison.
Pour finir, quels bénéfices peuvent avoir nos actions individuelles ? Comment peut-on maîtriser leur impact ?
Longévité et sobriété sont les maîtres mots d'un usage raisonné du numérique. Ne pas se suréquiper et garder le plus longtemps possible ses équipements pour commencer, c'est efficace. En effet, passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50% son bilan environnemental. Limiter les consommations d'énergie est aussi indispensable. Le quart des consommations électriques des équipements informatiques à la maison pourrait être évité. Comment ? Eh bien, ne pas laisser les appareils ou les veilles allumées en permanence. Ne pas laisser un chargeur sur une prise électrique lorsque l'équipement est rechargé. Fermer le plus souvent possible l'interrupteur d'alimentation de sa box ou du récepteur TV. Par exemple, la nuit, c'est faisable. Eh bien, tout cela constitue autant de petits gestes contribuant concrètement à réduire ses consommations. Et mis bout à bout, tous ces gestes ne sont pas si petits que ça.
10 milliards de téléphones se sont vendus dans le monde depuis 2007. Il faut 600 kilos de matières premières pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, 103 kilos de CO2 générés sur les 156 kilos émis sur l'ensemble de son cycle de vie. Il y avait 19 milliards d'objets connectés en 2019 à travers le monde et l'ADEME estime que 48 milliards d'objets numériques seront en circulation en 2025. Thibaut Dugas est développeur de sites internet et conférencier sur le numérique. Il fait également partie de Translucide, un collectif de professionnels artisans du web indépendants avec des valeurs écologiques fortes. Bonjour Thibaut Dugas.
Bonjour.
Alors déjà, comment avez-vous pris conscience de l'impact du numérique sur l'homme et son environnement ?
C'est grâce au créateur justement de la solution qu'on utilise, qui s'appelle Translucide, qui lui est sur ces valeurs-là depuis pas mal d'années. Et en retour de voyage, j'ai voulu construire un projet autour du travail et de l'écologie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Simon Van Daël. Et donc, il m'a familiarisé avec ce sujet sur l'écologie et le numérique. Et vu que j'ai fait des études d'informatique, ça m'a intéressé. Je me suis beaucoup intéressé au sujet et voilà comment j'en suis venu.
Donc l'attention que vous portez au niveau de l'environnement, ça se traduit dans votre quotidien professionnel à travers Translucide. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est en deux mots ?
Oui, Translucide, c'est un collectif d'auto-entrepreneurs où on a des valeurs écologiques fortes, aussi bien professionnelles que dans la vie privée. Et notre but, du coup, c'est vraiment de construire des sites éco-conçus, donc c'est-à-dire réduire au maximum l'impact qu'a le site web sur notre planète.
Là, quand on pense site web, on est peut-être un petit peu plus sur les usages. On va s'intéresser à l'impact des objets numériques. Il est notamment très lourd à la fabrication des objets. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Alors, la fabrication des objets, effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont prises tout au début. Il faut avoir une petite idée quand on fait une analyse, justement, de l'impact du numérique. Il faut bien prendre en compte aussi bien la fabrication, l'usage que la fin de vie. Donc, c'est très important de prendre les trois en compte. Et donc, la fabrication, c'est un peu moins de 50% pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment un gros, gros impact. C'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte.
Et quand on parle de l'impact environnemental, il peut se sous-détailler en différentes familles. Quand vous dites 50%, c'est gaz à effet de serre, c'est consommation des ressources naturelles, c'est tout ça à la fois ?
C'est le gros problème. C'est une des choses du numérique, ça dépend toujours du contexte et dans quelle situation on le fait. Là, je fais référence à notamment une étude qui a été faite par Green IT. Ils séparent en quatre, enfin, ils prennent en compte quatre ressources, qui est les gaz à effet de serre, l'eau, l'énergie primaire, donc l'énergie qui est ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie qui est prise au début pour la fabrication notamment, et pendant l'utilisation. Et l'eau, je l'ai dit, et je ne sais plus c'est quoi la quatrième.
Vous avez dit GES, énergie primaire, est-ce que le quatrième revient ? Après, ouais, c'est pas très grave, parce que vous avez cité l'étude, et donc on pourra le mettre dans les liens descriptifs du
yes.
Podcast. Il y a aussi la question des terres rares, souvent, qui arrive quand on parle des objets numériques. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? Et ce qu'on se demandait avec Lucie, si c'était essentiellement des minerais extraits de la Terre, on se demandait d'où ça venait, on se demandait à quoi ça servait.
Donc la terre rare, contrairement à son nom, elle n'est pas forcément rare, elle est un peu partout, mais elle est en très petite quantité, un peu partout sur la croûte terrestre. Donc il faut extraire une grosse quantité de matière pour avoir une petite quantité de métaux rares. Donc ce qui fait qu'ils sont extraits, donc ils sont quand même concentrés dans certains endroits, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou autre. Et en fait, il faut comprendre que ces métaux, pour les extraire, c'est souvent des enfants, des femmes ou des hommes qui le font, mais dans des situations précaires. Et ils sont vraiment dans un contexte où ils y vont à la pelle, sans aucun, dans des trous complètement sans bois pour les protéger, etc. etc. Et donc, une fois qu'ils sont extraits, on les traite avec des produits chimiques pour justement avoir vraiment que ce métaux qui nous intéresse, qui a des propriétés particulières. Et donc, vu que d'un point de vue écologique et social, c'est absolument dégueu, dans les années 2000 à peu près, beaucoup, aussi bien l'Amérique que le reste du monde, a arrêté de prendre en compte, enfin d'avoir ces mines-là. Par contre, la Chine, qui a beaucoup moins de scrupules, a récupéré du coup toutes ces mines. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 90% des mines qui appartiennent à la Chine. Donc la Chine a le monopole sur ces métaux rares, et ces métaux rares nous permettent justement d'avoir des technologies qui sont vraiment très efficaces, et ça qui nous permet d'augmenter nos performances de la plupart de nos technologies.
D'accord, ça permet la miniaturisation, ça permet des choses comme ça.
Voilà, ou alors les batteries, pourquoi elles sont de plus en plus performantes, c'est notamment grâce à ça, etc., etc.
Alors vous avez évoqué les conditions humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, nous consommateurs, d'acheter des biens numériques construits dans des conditions qui respectent les hommes et les femmes?
Alors c'est très compliqué d'avoir un suivi vraiment sur tout. Après, il y a quelques marques. On peut citer une des plus connues, en tout cas, qui s'appelle Fairphone, qui permet justement qui fait du sourcing sur ces métaux. Mais on est très loin d'avoir quelque chose d'exemplaire ou quoi que ce soit.
Et justement, Fairphone, est-ce que vous savez s'ils comptent le rendre accessible à un plus grand nombre? Parce qu'il y a un coût financier pour les usagers qui est quand même assez conséquent, en tout cas à l'achat. Après, peut-être que la durée de vie permet de le garder plus longtemps.
Donc c'est ça. Alors Fairphone n'est pas vraiment très très cher. Il est aux alentours de 300 ou 400 euros d'après mes souvenirs. Contrairement à un autre téléphone, alors que ce soit l'iPhone ou même d'autres, des Samsung qui sont très chers aussi. Après, ils sont rendus accessibles par les opérateurs. Effectivement, ils ne sont pas très très chers. Après, effectivement, c'est la durée de vie qui change beaucoup, puisque le principe d'un Fairphone, c'est qu'on peut changer la batterie, la caméra ou d'autres composants vraiment de son téléphone pour, lorsque celui-ci est défaillant, on puisse changer que celui-là et pas forcément tout le téléphone. La philosophie qu'il y a derrière le Fairphone, c'est de pouvoir garder son Fairphone pendant une vie entière.
Une vie entière, vraiment?
Vraiment
une
vie entière.
Donc c'est à beaucoup moins d'impact que, par exemple, acheter un téléphone en seconde main?
Ça a beaucoup moins d'impact, puisque forcément, même s'il est de seconde main, il a fallu le fabriquer. Alors que si on garde notre Fairphone est fabriqué, il reste fabriqué. Ensuite, effectivement, il y a toujours les composants, etc. Et c'est, comme je disais, c'est une philosophie qu'il y a derrière. Pour l'instant, on n'en est pas là, hein, mais c'est vraiment ça vers quoi ils veulent et vers quoi ils veulent aller, quoi.
Alors maintenant, utiliser une tablette plutôt qu'un énorme cartable rempli de dossiers imprimés, est-ce que c'est si écologique que ça?
C'est la grande question, c'est toujours la même chose. C'est qu'au niveau des chiffres, on peut se batailler sur tout et n'importe quoi. Ça dépend du contexte, de dans quel pays, dans quelle situation on fait, etc. Quels sont nos... Est-ce qu'on communique avec d'autres personnes qui sont proches de nous ou pas, etc. etc. Après, sur notamment le papier, il y a plusieurs études qui sont sorties. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, de prendre en compte vraiment quelque chose avec plusieurs critères. Si on prend en compte seulement, par exemple, le gaz à effet de serre, il est possible, si on n'imprime pas nos factures et qu'on les stocke quelque part et qu'on ne les change pas d'endroit, etc., etc., que ça émette moins de gaz à effet de serre que si on imprime notre facture. Par contre, si on prend en compte, par exemple, les ressources, les métaux rares dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, c'est foutu. Les papiers utilisent très peu de métaux rares, contrairement à tous nos disques durs, etc., etc. Donc, ça dépend quels critères on prend pour chaque situation.
Là, on parle de la fabrication, on parle aussi de la fin de vie. Une question qui peut se poser, c'est la question du recyclage des objets numériques. Est-ce que ça se recycle bien, un objet numérique?
Alors, ça dépend de quel objet numérique dont on parle. On estime, l'Union européenne dit qu'on recycle à 80% de nos objets électroniques. En vérité, c'est beaucoup moins que ça, puisque quand on parle, la directive européenne ne prend pas en compte tout ce qui reste toutes les tablettes, tous les téléphones qui restent dans nos tiroirs, ou une fois que c'est trié, on ne sait pas si c'est valorisé d'un point de vue énergétique, ou alors refait de la seconde main ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une toute petite partie du recyclage, et ça ne prend pas tout en compte. Donc on est très 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 loin du recyclage. Pour avoir un ordre d'idée, il y a deux entreprises qui recyclent le smartphone en Europe. Et il y en a une, du coup, qui fait vraiment de bout en bout, donc du début jusqu'à la fin du cycle de vie. Et là, on a un recyclage d'à peu près 3% des smartphones.
Donc on arrive à 3% des smartphones. Et quel est le taux de valorisation matière d'un smartphone?
Alors, on n'est pas à 3%. On est sur un smartphone, il y a 3% qui est recyclé.
D'accord.
Donc, pour faire autre chose, c'est rarement un smartphone, mais c'est plutôt autre chose.
Quel est votre regard sur l'obsolescence des appareils numériques? Est-ce qu'elle est réelle? Et qui ou quel phénomène l'encourage?
Il y a beaucoup de phénomènes, donc elle est réelle. Effectivement, on le voit, hein, les objets sont de moins en moins durs, de moins en moins longtemps. Après, il y a plusieurs facteurs qui prennent en compte. Il y a l'obsolescence programmée qu'on connaît un peu, où là, c'est vraiment les objets qui tombent en rade. Alors, soit ils sont vraiment programmés pour être en rade, soit on utilise des composants qui sont un peu pourris et du coup, ça tombe en rade. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est logiciel, donc l'obsolescence logicielle, où le logiciel est de plus en plus gourmand et du coup, notre matériel ne suffit plus à cela. Et il y a encore l'obsolescence cognitive, c'est-à-dire que, notamment la mode, on voit, ça peut être, on peut faire le parallèle avec les vêtements, où il faut changer toutes les saisons de vêtements, et alors que les vêtements sont en très bon état. Donc c'est la même chose pour le nouvel iPhone, qui est un exemple parmi d'autres.
Est-ce que le numérique et un mode de vie plus soft, c'est pas totalement à l'opposé, Thibaut Dugas ?
Totalement à l'opposé, non, puisque c'est une question surtout d'usage. Après, aujourd'hui, la façon dont on voit le numérique, comme on dit, le numérique s'est dématérialisé, alors que c'est complètement faux, c'est pas dématérialisé, c'est juste pollué plus loin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 80% qui sont des gaz à effet de serre, de la pollution du numérique qui sont importés en France. Donc c'est juste une façon de voir le numérique. Le numérique, c'est pas quelque chose qui apparaît par magie et qui disparaît par magie. Il faut bien voir ses conséquences et dans ce cas-là, prendre en compte aussi tous les impacts que ça a.
Par où commencer quand on souhaite, à titre individuel, limiter l'impact de ces biens numériques sur l'environnement ?
La première chose, c'est arrêter d'acheter du neuf, acheter que de la seconde main et acheter que si on ne peut pas réparer et réparer que si on en a réellement besoin. C'est par là, je pense, qu'il faut commencer et ensuite regarder ses usages. Est-ce qu'on peut pas jouer aux jeux de société plutôt que regarder une vidéo ou 5 séries pendant la soirée ?
Les Écolonautes, à l'instant dédié au numérique, avec notre invité, c'était Thibaut Dugas, membre du collectif Nantais Translucide.
Les Écolonautes,
épisode 9.